fin novembre, et puis ensuite fin janvier, nous avons entamé une petite série de 3 prédications sur le thème de la grâce de Dieu. Et plus précisément, sur tout ce que cette grâce signifie pour celui qui choisit de s'attacher à Jésus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et alors nous avions dit, pour essayer de l'expliquer et de la comprendre le plus précisément possible, qu'en fait, la manifestation de la grâce de Dieu à notre égard pouvait se découper en 3 actions principales, 3 actions majeures. Le reste étant en fait surtout des conséquences de l'une ou l'autre de ces 3 actions. Au moment où nous saisissons la main de Dieu et son salut, nous devenons bénéficiaires de 3 réalités que Dieu accomplit en nous et pour nous. Nous avons appelé ça la triple action de grâce de Dieu. Je vous rappelle en 2 mots. Tout d'abord, nous avons vu la première réalité, c'est la justification. Cette déclaration de justice de Dieu à notre égard. À travers le sacrifice de Jésus à la croix, je suis juridiquement pardonné de mes péchés que Jésus prend sur lui. Ma dette devant Dieu, la dette de mes fautes, est payée. Et par sa résurrection, Jésus vient mettre à mon crédit sa justice parfaite à lui. Ainsi, je deviens, à travers Jésus, un être parfaitement juste. Et puis, nous avions enchaîné avec une deuxième réalité, celle de la régénération, où Dieu vient nous communiquer une nouvelle nature, une nouvelle vie. Par la venue de son Esprit en nous, nous naissons de nouveau. Dieu nous communique une vie spirituelle, et cela va changer notre cœur, cela va changer l'état de notre âme. Comme le vent qu'on ne voit pas, mais dont on sent les effets, l'Esprit vient en nous, anonymement j'ai envie de dire, et nous transforme en profondeur, pour donner une nouvelle direction à notre vie. 2 actions tellement fortes pour nous et en nous. Mais Dieu ne s'arrête pas là et on arrive aujourd'hui à la 3e de ces actions. Après nous avoir justifiés et régénérés, Dieu vient maintenant nous adopter. Et ce matin, je vous propose donc de nous arrêter sur ce 3e mot. Dans un premier temps, on essaiera de dire quelques mots sur ce qu'est l'adoption, notamment dans son rapport avec les deux autres actions. Puis dans une deuxième partie, on verra plus en détail quels sont les privilèges qui en découlent. Et enfin, comme une conclusion générale, nous verrons comment l'homme est invité, comment nous sommes invités à répondre à cette triple action de grâce de Dieu pour nous. Alors, qu'est-ce que l'adoption ? Eh bien, autant pour comprendre la justification, il nous fallait quelques notions juridiques, autant la régénération, on l'a vu, est et reste quelque chose quand même d'un petit peu mystérieux à nos yeux. Autant l'adoption est, me semble-t-il, un concept plus facile à appréhender. L'adoption, c'est tout simplement, entre guillemets bien sûr, Dieu qui devient notre Père et nous qui devenons ses enfants. Et je dois dire, en particulier dans notre monde occidental, quand même, qui a une forte tradition chrétienne, que cette image de Dieu comme un Père est finalement assez facile à comprendre. Je ne dis pas qu'on l'accepte tous facilement, mais je dis que cette idée d'appeler Dieu Père est plutôt courante. Mais il nous faut bien comprendre que dans d'autres cultures, cette vision du Dieu Tout-Puissant comme un Père est beaucoup moins naturelle. Je pense entre autres aux pays musulmans. Et peut-être connaissez-vous à ce sujet l'histoire, l'image est un peu floue, mais l'histoire de Bilkis Sheikh, cette femme, une femme de la haute société pakistanaise. Une femme de politique, une femme de diplomatie qui est un temps mariée au ministre de l'Intérieur du Pakistan, dans le début des années 60. Mais une femme mécontente de sa vie, après la mort de ses parents, après son divorce, et qui cherche des réponses à ses questions. Et alors elle se tourne naturellement vers le Coran, mais elle ne trouve pas les réponses qu'elle cherche. Par contre, elle y entend parler de Jésus. et elle décide donc de lire la Bible pour en savoir un peu plus sur lui. Et le premier verset qui attire son attention est le suivant. Celle qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira alors « Vous êtes les fils du Dieu vivant ». Intrigué par de telles paroles, et puis aussi devant le sentiment de paix que lui procure la lecture de la Bible, cette dame commence, sur les conseils d'un chrétien, à prier le Dieu de la Bible et à le prier en s'adressant à lui comme on s'adresse à un père, à son père. Et cette vision personnelle et intime de Dieu va radicalement transformer toute sa vie. Et en 1981, elle va écrire son autobiographie, qui est assez célèbre aujourd'hui, et elle va donner pour titre à cette autobiographie « Dieu, j'ai osé l'appeler Père ». Elle a osé appeler le Dieu infini son Père. Elle a osé parce que cette idée était tellement peu naturelle pour elle. Mais je crois qu'elle n'a pas tout à fait tort dans cette approche-là. Et j'irais même jusqu'à dire, dans cette approche de oser appeler Dieu son Père, et j'irais même jusqu'à dire qu'associer trop rapidement ou trop directement les mots « Dieu » et « Père » me semble être un vrai raccourci, quand même maladroit. Et c'est la première chose qui me semble importante de remarquer ce matin. Parce que si la Bible nous dit, et les textes qu'on a lus dans l'introduction nous le rappellent bien, que nous sommes devenus des enfants adoptés par Dieu, des fils et des filles adoptifs de Dieu, cela veut donc dire, en toute logique, que nous ne sommes justement pas des enfants naturels de Dieu. Que notre état premier n'est pas celui de fils ou de fille de Dieu, quand bien même il est notre créateur. On est d'accord là-dessus. Et je crois qu'il nous faut comprendre cela. Il n'y a rien de moins naturel, il n'y a rien de moins normal que d'être un enfant de Dieu, au sens que lui donne la Bible. C'est même, en fait, j'en suis persuadé, une réalité profondément renversante. Pouvoir être adopté par le Père Céleste est, sans aucun doute, l'apothéose de cette triple action de grâce pour nous. Le couronnement de l'amour de Dieu à notre égard. Et certainement pas, en tout cas, quelque chose de logique ou une réalité normale qui ferait suite à notre statut de créature. Et pour nous convaincre de cela, peut-être regardons notamment le rapport qui existe entre l'adoption et les deux autres actions, la justification et la régénération. Et notons la chose suivante. L'adoption n'est pas une action qui découle naturellement des deux autres. Il me semble primordial de bien saisir ça pour commencer à en mesurer sa portée. Je m'explique. Dieu aurait très bien pu me justifier, c'est-à-dire énoncer une déclaration de justice à mon égard, sans faire de moi son enfant. Dieu aurait très bien pu dire seulement, par la mort et la résurrection du Christ, je te déclare parfaitement juste, dorénavant, les portes du ciel te seront ouvertes. C'est déjà magnifique, on est d'accord. Mais ça n'implique aucunement que je devienne pour autant son enfant. Et de la même manière, Dieu aurait tout à fait pu me donner une nouvelle vie, faire de moi un être spirituellement vivant, sans que je devienne encore une fois son enfant, sans m'adopter. Et d'ailleurs, autant qu'on puisse le discerner un petit peu à travers les Écritures, il semble qu'il existe des créatures spirituellement vivantes, parfaitement justes, mais qui ne sont pas pour autant membres de la famille de Dieu. Les anges, puisque c'est d'eux que je veux parler, ne semblent pas, en effet, jouir des mêmes privilèges qui nous sont accordés en tant qu'enfants adoptifs. Plusieurs textes laissent transparaître cela. Et peut-être est-ce d'ailleurs pour cette raison qu'ils désirent plonger leur regard dans notre salut, dans le salut qui est le nôtre. Non, l'adoption va au-delà de cette simple conséquence logique de ces deux autres actions de grâce. Sans aucun doute, étaient-elles des conditions nécessaires pour que Dieu puisse nous adopter, mais elles n'étaient pas suffisantes. En adoptant les êtres justifiés et régénérés que nous sommes, Dieu va encore plus loin. Il rajoute une œuvre supplémentaire à la gloire de sa grâce. Il vient maintenant faire de nous ses propres enfants chéris dans le plus beau sens du terme d'une relation parent-enfant qu'on imagine. Il vient installer entre lui et nous une relation infiniment privilégiée qu'il n'a avec aucune autre créature, terrestre ou céleste. Avons-nous pris conscience de l'excellence de cette bénédiction? Oui, l'adoption est profondément renversante. Et profondément aussi, comme toutes les autres actions d'ailleurs, profondément imméritées. Alors bien sûr, je précise quand même, en élevant aussi haut l'adoption, je ne voudrais pas donner l'impression de diminuer les deux autres actions de grâce dont on a parlé les fois précédentes. Elles sont toutes aussi belles, elles sont toutes aussi grandioses, et il n'est bien sûr pas question d'entrer dans le jeu d'une comparaison qui n'aurait aucun sens et qui tournerait vite au ridicule. C'est comme, pour prendre une illustration, quand on admire les plus belles chutes du monde. Il n'y a aucun intérêt à savoir si ce sont les chutes du Niagara, en haut, les chutes d'Iguaçu, au milieu, ou les chutes Victoria, en bas, qui sont les plus magnifiques. On s'en fiche. Il n'y a qu'à se taire, ouvrir grand les yeux et les admirer toutes les trois. Eh bien, de la même manière, la question n'est pas de savoir quelle action de grâce de Dieu est la plus grande, parce qu'elles le sont toutes. Mais ce que je voulais relever, c'était de ne pas gâcher pour autant la grandeur de l'adoption en l'incluant juste au package, entre guillemets. Non, elle est une marque d'amour encore supplémentaire. Et comme l'apôtre Jean, et on l'a lu dans le dernier texte, elle nous appelle à nous exclamer. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Voyez combien le Père nous a aimés pour cela, et nous le sommes, dit Jean, et nous le sommes. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Et comme conséquence de cette relation Père-enfant, cela va venir nous conférer d'immenses bénédictions. Et j'en arrive à ma deuxième partie. Et je vous invite à en détailler quelques-unes de ces immenses bénédictions. Alors tous ceux parmi nous qui ont connu une enfance avec des parents aimants autour d'eux reconnaîtront bien sûr vite dans ce que l'on va dire les privilèges qui sont induits par une belle relation parent-enfant. Mais avec Dieu, on le sait, ces privilèges sont à la puissance infinie, comme dirait un mathématicien. Et je vous invite à en détailler rapidement six. Six privilèges relatifs à notre adoption par Dieu. Adoption réalisée grâce au sacrifice du Christ qui, en nous communiquant sa vie, nous communique donc aussi ses privilèges de fils. À la différence, bien sûr, que lui est fils légitime et nous adoptifs. Premier point. En tant que père, Dieu nous connaît et nous comprend comme un père. Écoutons ce que nous dit ce psaume. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelles pattes nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. J'aime ce verset. Dieu sait de quelles pattes nous sommes faits. Il connaît nos limites. Il connaît nos défaillances, il connaît nos luttes quotidiennes. Et qui mieux qu'un père, ou une mère bien sûr, connaît les angoisses et les faiblesses de son enfant? Qui mieux qu'un père comprend les luttes de son enfant? Qui mieux qu'un père évite que son enfant ploie sur des fardeaux trop lourds et les porte avec lui? Dieu est ce père-là. Et en particulier, Dieu connaît les stades de notre développement spirituel, si on peut dire. Aussi, il va nous conduire à notre rythme, ou plutôt bien mieux, à son rythme, à lui qui est tellement meilleur. À nous de lui laisser la main, à nous de lui faire confiance, à nous de demeurer fermement attachés à lui. Deuxième privilège, Dieu pourvoit à nos besoins. On se rappelle cette célèbre image tirée du serment sur la montagne. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et il nous donne en particulier le Saint-Esprit qui nous console, qui nous équipe. Alors bien sûr, il faut le dire, Dieu ne comblera pas tous nos besoins, pas plus que j'achèterai à mes enfants tout ce qu'ils réclament. Pour certaines choses, ils devront attendre, nous devrons attendre. Pour d'autres, ils ne les auront jamais parce que nous aurons estimé qu'elles ne sont pas bonnes pour eux. Mais une chose est sûre, c'est que mes enfants savent sans aucun doute que tant que cela sera en notre possibilité, ils auront toutes les choses qui comptent vraiment, qui leur permettront vraiment de vivre. Dieu ne fera-t-il pas mieux que nous? Troisième point, Paul nous dit, « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Par son Esprit, Dieu nous guide, Dieu nous conduit dans les chemins d'obéissance. Nous pouvons suivre ses traces sans crainte parce que lui connaît le bon chemin. Dans les histoires de famille qui circulent chez nous, ma mère raconte souvent celle de sa sœur, toute jeune à l'époque, qui roulait à vélo et à qui on avait dit « Tu regardes toujours la roue de ta grande sœur qui est juste devant toi et tu fais tout comme elle. Ainsi, si tu la suis, tu ne risqueras rien, ni les voitures, ni le fossé qui est à côté, ni de te tromper de chemin. » Alors, obéissante, elle gardait toujours les yeux rivés sur la roue arrière de sa grande sœur, confiante qu'elle irait ainsi dans la bonne direction. Alors faisons de même. Gardons les yeux fixés sur les pas de Jésus. Gardons les yeux fixés sur la vie de Jésus, sur l'exemple de Jésus, notre grand frère pleinement digne de confiance. En suivant son exemple, nous ne nous tromperons pas de route. Alors bien sûr, pour l'anecdote, vous imaginez que si on raconte cette histoire en famille, c'est que la grande sœur devant a fini par piler brutalement. Mais rassurons-nous, Dieu ne pile pas. Quatrième privilège, Dieu nous corrige. Alors là, a priori, il faut bien reconnaître que ce n'est pas le point qu'on aurait noté le plus spontanément. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux, par exemple, nous dit pourtant avec force que c'est une des caractéristiques principales qui fait la différence entre être un fils ou pas. Et on lit cet extrait. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Et encore une fois, c'est une évidence de le dire. Ce sont ses propres enfants que l'on reprend et que l'on corrige, et pas ceux des autres. Aux anniversaires de nos garçons, quand ils invitent leurs copains, on a d'ailleurs souvent remarqué qu'on était toujours un peu gênés s'il nous fallait reprendre un enfant qui n'était pas le nôtre, mais qui poussait quand même le bouchon un peu loin. Et on est mal à l'aise devant une telle situation, parce qu'il n'y a pas cette relation de confiance entre l'enfant et nous. Et donc, enfin, moi en tout cas, je suis très mal à l'aise. Mais c'est vrai, il faut bien le relever, la correction est parfois synonyme de souffrance. Et c'est écrit, supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. Et dans le texte de Romains que l'on a lu dans l'introduction, Paul le dit aussi, autrement, mais il le dit. En tant que fils de Dieu, nous jouissons également du privilège, entre guillemets, de souffrir à l'image de la souffrance de Jésus. Alors Paul et l'auteur de la lettre aux Hébreux ne parlent pas de la souffrance de manière générale, mais ici d'une souffrance propre aux chrétiens, propre aux disciples de Jésus. Dans Romains, il semble plutôt que Paul parle d'une souffrance qui est liée à la persécution, au sens le plus général, le plus large. Dans la lettre ici aux Hébreux, il semble que ça nous renvoie à une souffrance qui est liée à la lutte contre le péché dans nos vies. Mais quoi qu'il en soit, trop de deux textes du Nouveau Testament le disent pour que nous passions sous silence cette dimension de la souffrance qui est due à notre statut d'enfant de Dieu. C'est également une vérité de la foi chrétienne. On continue, cinquième privilège. Dieu nous fait héritiers. Paul dit « L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu ». Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. Et alors là, j'avoue, c'est quelque chose qui me dépasse totalement. Co-héritiers du Christ. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est presque trop énorme pour y croire. Je ne saurais même pas quoi dire là-dessus. Wayne Grudem commente pour nous ce verset. En s'appuyant sur d'autres passages des Écritures. En notre qualité d'héritier, dit-il, nous pouvons prétendre à un héritage éternel qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Pour nous, qui sommes enfants du roi, membres de la famille royale, des princes et des princesses qui régneront avec Christ sur le nouveau ciel et la nouvelle terre, Dieu tient en réserve tous les privilèges et toutes les bénédictions du ciel. Comme avant-goût de cet immense privilège, Dieu a envoyé des anges pour nous servir et exercer un ministère en notre faveur. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ou si, peut-être seulement une chose. Juste oser y croire et se saisir de ces promesses, puisqu'elles sont dans la Bible. Et puis enfin, on arrive au dernier point, au dernier privilège, le plus beau sans doute. Au départ, je voulais garder la question de l'héritage pour la fin, tellement c'est incroyable. En fait, je me suis dit qu'il serait encore mieux de terminer par celui-ci, parce qu'en trois mots, il résume tout le reste. Tout simplement, Dieu nous aime. Dieu nous aime plus que tout. Comme un père aime son fils ou sa fille plus que tout. Comme une mère aime son fils ou sa fille plus que tout, et lui bien encore plus. Dieu nous aime plus que tout. Il nous aime à en souffrir. Il nous aime à en mourir. Et ce n'est pas juste une formule, on le sait. Réalisons-nous pleinement ça. Mesurons-nous bien à quel point Dieu nous aime. Ce n'est pas tant que le fait de ne pas le réaliser lui fera moins nous aimer. Non, lui, il ne change pas, il nous aime toujours autant. Mais le réaliser, et le réaliser toujours plus, je le crois profondément, changera vraiment notre vie. Changera vraiment notre conception de la vie. Changera vraiment notre conception de nos quotidiens, quand on se sait à ce point aimé par Dieu. Je prends une image. Un jour, un petit garçon marche avec son papa au bord de l'eau. Ils marchent ensemble, tranquillement. Et puis à un moment, le père s'arrête, il prend son fils dans ses bras, il le serre de toutes ses forces et il lui dit tendrement à l'oreille « Je t'aime ». Puis ensuite, il le repose. Le garçon était-il davantage le fils de son père quand il était dans ses bras que quand il était à terre ? Non, bien sûr que non. Il ne faisait aucune différence objective ou légale. Mais il y avait quand même une différence, et pas des moindres. Une différence sur le plan de l'expérience. Dans les bras de son père, ce petit garçon expérimente la filiation. Il expérimente l'amour infini de son père envers lui. tous ceux qui appartiennent à Dieu parmi nous, tous ceux qui se sont authentiquement attachés à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu. Ça ne changera pas. Mais à nous de nous saisir de cette réalité. Expérimentons notre adoption. Expérimentons maintenant l'amour infini du Père pour nous. J'en arrive à la conclusion et je le redis pour la troisième fois en trois prédications sur ce thème-là. Décidément que Dieu est grand. Quand on se penche un peu sur cette œuvre qu'il accomplit pour nous, nous ne pouvons qu'en rester bouche bée. Et devant de tels cadeaux inestimables, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je trouve qu'on se sent profondément indigne, profondément en décalage. Oui, nous sommes indignes, nous sommes tellement indignes qu'on pourrait se sentir dépassé par Dieu et peut-être même craindre d'entrer dans un tel torrent d'amour. Comme Pierre qui, tombant aux pieds de Jésus, s'écriait « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Mais Jésus ne s'est pas retiré. Et Dieu nous offre cet amour. Il n'était pas obligé, mais il en a décidé ainsi. Alors oui, recevons cette immense grâce. Et puis, une fois reçu, s'élève peut-être en nous cette autre question. Mais comment pourrions-nous maintenant le remercier un tant soit peu pour cela ? Comment pourrions-nous lui dire, nous, les princes de l'incohérence, les seigneurs de l'inconstance, comment pourrions-nous lui dire que nous sommes tellement reconnaissants devant de telles faveurs, devant de telles promesses, devant de telles réalités ? Pour ma part, c'est un vrai questionnement. Comment lui dire merci à sa juste valeur ? Et alors, tout récemment, j'ai saisi, à travers une petite histoire qui m'est arrivée, quelque chose à ce sujet. En fait, ce sont mes enfants, mes deux garçons plus exactement, qui me l'ont apprise sans le vouloir. Et je voudrais la partager avec vous pour conclure cette réflexion. Il y a pile 2 mois, en fait, à un jour près, comme beaucoup de personnes, nous avons fêté Noël. Et donc, le 25 au matin, au pied du sapin, nous avons offert quelques cadeaux à nos enfants. Et notamment, si vous voulez tout savoir, pour les garçons, des cartes de foot qu'ils attendaient avec impatience. Et même des protège-tibias pour l'un et une paire de gants pour l'autre. C'est toujours foot chez nous. Leurs yeux ont brillé et je revois encore Axel promener ses gants partout avec lui dans la maison pendant tous les jours qui ont suivi. Somme toute, assez classique. Mais juste après avoir offert nos cadeaux ce matin-là, nos deux garçons se sont levés et ils sont partis dans leur chambre pour nous ramener à nous aussi un petit cadeau. Ils l'avaient rangé dans une boîte de chocolat vide qu'ils avaient, je pense, récupérée dans la poubelle. Et alors, on a ouvert la boîte et, étonné, on a découvert ce qu'il y avait dedans. C'était des chocolats. Et alors, on s'est demandé où est-ce qu'ils avaient bien pu les trouver. Pas dans la poubelle. On ne met pas les chocolats à la poubelle. Et puis, en fait, on a compris. Ce n'était pas n'importe quel chocolat. On a compris qu'en fait, toute la semaine avant Noël, chaque matin en se levant, avant même d'ouvrir la porte de leur chambre, ils allaient ouvrir leur calendrier de l'Avent, chacun le sien, et au lieu de manger leur petit bout de chocolat comme on le croyait, eh bien, jour après jour, ils allaient le ranger dans la boîte, en pensant secrètement au moment où ils nous l'offriraient à Noël. Et je ne vous cache pas qu'on a été bien émus. Nos enfants n'ont pas de moyens de locomotion pour acheter quoi que ce soit. Et même s'ils en avaient, de toute façon, ils n'ont pas d'argent. Oui, leurs moyens sont vraiment limités. Mais malgré ces moyens limités, ils ont voulu, à leur façon, exprimer leur reconnaissance et leur amour envers nous, avec ce qu'ils avaient, avec ce qui était dans leur capacité. Et puis, alors, en me remémorant plusieurs jours après ce qu'ils avaient fait et aussi la réaction que j'avais eue quand ils avaient fait ça, je crois que j'ai mieux compris comment fonctionnait Dieu, notre Père. Devant Dieu, nos moyens sont tellement limités. Nous ne pourrons jamais offrir à Dieu quelque chose à sa mesure. Nous ne pourrons jamais dire merci à Dieu comme il le mérite. C'est une évidence. Mais ça, finalement, je crois qu'il s'en moque un petit peu. Parce que la seule chose qui compte vraiment pour lui, c'est de voir ses enfants lui dire merci, lui manifester qu'il l'aime, avec leurs faibles moyens sans doute, mais de tout leur cœur. Et en plus, vous savez aussi le sentiment que j'ai eu au-delà de la joie ce matin-là. J'avoue que j'ai éprouvé une profonde fierté. Une profonde fierté de voir que, sans aucune pression et en toute liberté, juste par amour, nos enfants avaient compris et retranscrit à leur façon ce qu'on avait essayé de leur transmettre. Et je ne veux pas me mettre à la place de Dieu, bien sûr, mais je ne peux m'empêcher de croire que lui aussi éprouve cette profonde fierté, comme on le voit transparaître dans le livre de Job au tout début de l'histoire. Qu'il éprouve cette profonde fierté quand il voit ses enfants vivre de tout leur cœur et de toute leur force, malgré leurs limites, mais de tout leur cœur, en cohérence avec sa volonté, et ainsi lui dire tout l'amour qu'ils ont pour lui, même si c'est encore imparfait. Oui, nos moyens sont limités. Oui, nos mots sont bien petits, et ils le resteront toujours devant un tel océan de bénédictions. Mais dorénavant, que notre vie, d'aujourd'hui jusque dans l'éternité, que notre vie s'enflamme pour ce Père qui nous a tant aimés. Que notre vie s'enflamme pour ce Père qui nous a tant donné. Pour ce Père qui nous a justifiés gratuitement en mourant sur la croix. Qui nous a régénérés, qui nous a communiqué sa propre vie. Qui nous a adoptés dans sa famille. Oui, que nous lui disions de tout notre cœur à quel point nous lui sommes reconnaissants. À quel point on veut l'aimer en retour, et que nous vivions de toutes nos forces pour lui plaire, et qu'encore et encore nous célébrions sa gloire et son amour. Gloire à Dieu. Amen.